Vous écoutez, on lit pour vous.
Entre deux laïcités, un fossé. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 27 mars 2026 dans la presse. On parle de laïcité depuis des décennies, mais au fil du temps, le consensus autour de cet enjeu s'est effrité, pour devenir le terrain d'une fracture. Notre chroniqueur se penche sur ce face-à-face entre deux visions d'un même principe. Le sociologue Gérard Bouchard parle de laïcité avec quelque chose de plus en plus rare dans notre monde polarisé, des nuances. Le coprésident de la commission Bouchard-Taylor est contre l'interdiction du port de signes religieux aux enseignants dans la loi 21. Il s'oppose aussi à l'idée d'élargir cette interdiction du port de signes religieux aux éducatrices en CPE. En même temps, Gérard Bouchard souhaite que la Cour suprême du Canada n'invalide pas la loi 21. Il trouverait ce dénouement extrêmement choquant et estime que ça compliquerait nos débats sur la laïcité. La Cour suprême n'a pas à se mêler de nos affaires. On est capable d'avoir nos débats et de les trancher à notre manière. Le sociologue de 82 ans, professeur émérite à l'Université du Québec à Chicoutimi, est conscient d'être assis sur un siège qui n'est pas très confortable. Souverainiste, il trouve que le gouvernement Legault est allé trop loin et aimerait qu'on revienne au compromis de son rapport, mais par une loi de l'Assemblée nationale, pas par une décision de la Cour suprême. A-t-on montré que le port de signes religieux endoctrinait les élèves, que ça les intimidait, que ça les mettait mal à l'aise? Pas du tout. Je trouve ça gratuit. Est-on en train d'exagérer l'application du principe de laïcité de l'État au Québec? La laïcité de l'État comporte 4 grands principes. La séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens, la liberté de conscience et de religion. La question du port de signes religieux chez les employés de l'État revient souvent au premier plan. Le rapport Bouchard-Taylor recommandait en 2008 l'interdiction du port de signes religieux chez les employés de l'État qui exercent un pouvoir de coercition, policiers, procureurs de la couronne, juges. Ce compromis faisait consensus à l'époque. Je cite Simon Jolin-Barrette en octobre 2018. Il y a une chose qui est sûre. C'est que le consensus du rapport Bouchard-Taylor est présent au Québec. Les Québécois s'attendent à ce que les personnes en situation d'autorité ne portent pas de signes religieux. En 2019, avec la loi 21, le gouvernement Legault a interdit le port de signes religieux aux policiers, aux procureurs de la couronne, aux juges et aux enseignants, avec une clause de droit acquis. En 2025, il a ajouté tout le personnel des écoles publiques, y compris les bénévoles. Avec le projet de la loi 9, étudié actuellement à l'Assemblée nationale, il veut maintenant élargir l'interdiction aux éducatrices en CPE avec une clause de droit acquis. Pour toutes ces nouvelles interdictions, il a utilisé la disposition de dérogation. On s'éloigne de plus en plus du compromis Bouchard-Taylor pour des raisons qui ne sont pas toujours claires. Aucune preuve empirique ne montre que le port d'un signe religieux, en l'absence de prosélytisme, exerce une pression morale quelconque sur autrui, dit Jocelyne McClure, professeure de philosophie à l'Université McGill, qui a été analyste expert à la commission Bouchard-Taylor. Beaucoup de Québécois semblent penser qu'on est en train d'aller trop loin. Selon un récent sondage léger, 62% des parents québécois trouvent acceptable que les éducatrices en garderie portent des signes religieux visibles à visage découvert, un voile. L'État du Québec était laïque bien avant la loi 21. À partir des années 1960, l'État a comblé le rôle joué par l'Église dans l'éducation. En 2000, le régime scolaire a été déconfessionnalisé. Au Québec, il y a un consensus sur la laïcité, un principe essentiel pour vivre ensemble dans nos sociétés plurielles, dit Jocelyne McClure. L'enjeu, ce n'est pas le principe de la laïcité. C'est la façon dont on l'applique en pratique. À ce chapitre, il y a deux visions. La première, l'État est laïque et neutre sur le plan religieux. Il ne favorise ou ne défavorise aucune religion. Selon cette vision, on peut restreindre la liberté de religion dans le domaine public, mais on essaie de le faire le moins possible et seulement pour des motifs raisonnables. Tous les citoyens sont traités de façon égale par l'État et peuvent vivre en fonction de leurs croyances religieuses ou non religieuses, lorsque celles-ci sont raisonnables, n'imposent pas de violation des droits d'autrui ou ne menacent pas l'ordre public, dit Jocelyne McClure. Personnellement, j'adhère à cette première vision de la laïcité de l'État, aussi défendue par le rapport de la commission Bouchard-Taylor. La deuxième vision est celle d'une laïcité plus stricte, inspirée de la France et défendue par le gouvernement Marois puis le gouvernement Legault depuis 7 ans. Selon cette vision, au nom de la neutralité religieuse de l'État, on peut interdire le port de signes religieux chez certains employés de l'État. Par exemple, selon le professeur Guillaume Rousseau, l'article 41 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec donne aux parents le droit à des établissements scolaires et à des CPE laïques, d'où l'interdiction du port de signes religieux chez les employés des écoles et des CPE. Les parents, certains étant musulmans, ne souhaitent pas que leur enfant soit sous pression. Je trouve ça parfaitement légitime, dit Guillaume Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, qui est conseiller du ministre Jolin Barrette pour la rédaction de la loi 21 et co-auteur du rapport Pelchat-Rousseau sur la laïcité. Il est l'un des avocats du mouvement laïque québécois devant la Cour suprême. Maître Rousseau voit la clause de droit acquis comme un compromis acceptable entre la liberté de religion des employés et le droit des parents d'avoir accès à une éducation laïque pour leurs enfants. Il faut respecter les deux. Il y a des parents qui vont s'en plaindre et des éducatrices, sans droits acquis, qui vont voir ça comme une atteinte à leur liberté de religion, dit-il. C'est la meilleure solution pour respecter les droits de tout le monde. Je suis en profond désaccord avec l'analyse de Guillaume Rousseau qu'a faite sienne le gouvernement Legault. Les droits et libertés ne sont jamais absolus. Le CPE et l'école peuvent être laïques, même si des employés portent des signes religieux. L'important, c'est de ne pas laisser entrer de prosélytisme religieux dans nos écoles et nos CPE, peu importe l'habillement des employés. D'ailleurs, la loi 21 n'a pas prévenu les dérapages à l'école Bedford. Et si la laïcité de l'État était vraiment compromise par la présence d'enseignantes et d'enseignants ou d'éducatrices portant un voile ou une kippa, on n'octroierait pas une clause de droit acquis, estime Jocelyne McClure. On ne ferait pas une telle exception si on sentait qu'une valeur fondamentale était en jeu, dit-il. La laïcité de l'État est une valeur fondamentale au Québec. Il faut pouvoir parler de ce sujet complexe avec nuance. Pourtant, des politiciens et commentateurs prétendent qu'être contre certains aspects de la loi 21, c'est être contre la laïcité et contre la nation québécoise. C'est une logique pernicieuse. On peut tout à fait être à la fois pour la laïcité, défendre les valeurs québécoises et s'opposer à l'interdiction de porter un signe religieux pour les enseignants et les éducatrices en CPE. En 2013, un ténor du mouvement souverainiste a demandé au gouvernement Marois de modifier son projet de charte des valeurs. « On n'a jamais passé une loi ou des règlements pour interdire quoi que ce soit de religieux », a-t-il dit en entrevue à RDI. « On a fait évoluer les choses graduellement vers une laïcité qui est à peu près totale. Pourquoi diable veut-on légiférer là-dessus? Est-ce qu'on pourrait simplement calmer le jeu et on adopte les recommandations de Bouchard-Taylor ?» L'auteur de cette déclaration aimait profondément le Québec et avait à cœur la laïcité de l'État. C'était Jacques Parizeau. C'était « Entre deux laïcités, un fossé », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 27 mars 2026 dans la presse.
Des épisodes de pluie verglaçante bientôt en voie de disparition? Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 12 mars 2026 dans la presse. Les épisodes de pluie verglaçante tant redoutés risquent d'être moins fréquents dans le sud du Québec au cours des prochaines décennies. La faute revient aux changements climatiques qui se traduiront par un climat plus chaud en hiver le long de la vallée du Saint-Laurent. Mais le verglas n'est-il pas une conséquence des changements climatiques? On sait déjà que le verglas nécessite des conditions particulières pour apparaître. La température doit être juste assez chaude pour obtenir de la pluie qui gèlera avant d'arriver au sol. Et il ne doit pas faire trop froid, sinon les précipitations se transforment en neige. La pluie verglaçante n'est donc pas une conséquence des changements climatiques, mais ceux-ci peuvent influencer la fréquence des épisodes. Mon impression de climatologue, c'est que le sud du Québec et Montréal ont vécu initialement une hausse des probabilités de verglas ces dernières années en raison du réchauffement planétaire, confie néanmoins Alain Bourque, directeur général du consortium de recherche Ouranos. Le Québec est-il plus vulnérable aux épisodes de verglas que d'autres régions? Ici, la réponse est claire. Le sud du Québec est l'une des régions du continent nord-américain où la pluie verglaçante se produit le plus souvent, rappelle Ouranos dans un rapport publié en 2024. Selon les observations compilées par le consortium, le sud du Québec a reçu en moyenne de 40 à 50 heures de pluie verglaçante par année pour la période comprise entre 1979 et 2016. En raison de sa situation géographique avec la vallée du Saint-Laurent, le sud du Québec est dans une situation presque unique au monde, juge Alain Bourque. Tu ne peux pas voir ça ailleurs sur la planète. L'endroit le plus probable en Amérique du Nord pour avoir du verglas, c'est au Québec. Le verglas ne veut pas nécessairement disparaître, mais les modèles climatiques nous indiquent que les épisodes de pluie verglaçante risquent fort d'être moins nombreux dans le sud du Québec, dans un climat plus chaud. À 2 degrés de réchauffement par rapport au niveau observé à l'ère pré-industrielle, les changements pourraient être subtils. Mais à 3 degrés de réchauffement, des changements plus clairs apparaissent, conclut le rapport d'Ouranos. À noter que le monde se dirige en principe vers un réchauffement de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Si les nations respectent leur promesse de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050, la hausse pourrait se limiter à environ 2 degrés, mais une augmentation de 3 degrés reste une possibilité sérieuse si les efforts stagnent. On pourrait donc s'attendre à une diminution des épisodes de verglas, non? 3 degrés de réchauffement à l'échelle mondiale se traduirait par une hausse moyenne annuelle de 5 à 6 degrés pour le sud du Québec. Une telle hausse des températures affecterait nécessairement le climat hivernal, précise Alain Bourque. Tous les signaux pointent vers une diminution dans l'avenir, surtout pour le Grand Montréal. Il y aura encore des épisodes de verglas, même avec des hivers beaucoup plus chauds? Il existe une possibilité que des épisodes plus intenses soient toujours au rendez-vous, souligne Alain Bourque. D'autres études répertoriées par Ouranos évoquent des scénarios où des épisodes extrêmes et plus rares laisseraient une plus grande quantité de glace que ce qu'on voit en ce moment. Ce serait tout à fait cohérent avec ce qui se passe pour d'autres événements météo extrêmes comme les ouragans. Leur nombre devrait diminuer, mais les plus violents seront plus nombreux, mentionne M. Bourque. Ces prévisions, évoquant des épisodes de verglas plus intenses, reposent cependant sur des modèles un peu moins robustes, précise-t-il. Mais si le réchauffement planétaire est supérieur à 3 degrés, c'est clair que le sud du Québec va avoir beaucoup moins d'épisodes de verglas. On dirait que les spécialistes ne savent pas sur quel pied danser avec le verglas. Et il faut distinguer ici les météorologues des climatologues. Les premiers réalisent des prévisions à court et à moyen terme, et dans le cas du verglas, le phénomène comporte son lot d'incertitudes. C'est très particulier comme phénomène, lance Alain Bourque. Le défi, c'est que ça se joue dans les demi-degrés et ça change tout. C'est ingrat, c'est épouvantable pour les prévisionnistes, les météorologues qui doivent faire des prévisions. Les gens en Montérégie auront peut-être eu seulement de la pluie, alors que sur la rive nord, tout le monde dira que c'était une bonne idée de fermer les écoles. C'était les épisodes de pluie verglaçante bientôt en voie de disparition, un texte d'Éric-Pierre Champagne paru le 12 mars 2026 dans la presse.
La mère de tous les pigeons de New York. Un texte de Richard Etu, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Entouré de ses sculptures souples en feutre, représentant des pigeons et des rats dans un secteur ensoleillé de l'Union Square Park à Manhattan, Mère Pigeon interrompt sa conversation avec un journaliste pour répondre à un courriel. Ça vient de Louis Vuitton, précise-t-elle en faisant référence à la marque de luxe française. Après avoir envoyé sa réponse, l'artiste performeuse de 61 ans dit à son interlocuteur venu à sa rencontre « Ils veulent que je participe à une campagne publicitaire. Je leur ai dit que je ne porterai ni fourrure, ni cuir, ni plume. » Assise en tailleur, Mère Pigeon de son vrai nom Tina Pigna, Trachtenberg, est vêtue d'un manteau recouvert de pièces de tissu en forme de plume. Sur la tête, elle porte un chapeau fleuri sur lequel niche un pigeon. Tout est très usé, un peu miteux, dit-elle en parlant de son accoutrement. J'adore le côté miteux. Et bien que son look semble avoir séduit Louis Vuitton, il déconcerte certains New-Yorkais. Ainsi, quand elle prend le métro, Mère Pigeon se rend compte que les passagers refusent de s'asseoir à côté d'elle. « Ils pensent que je suis folle, que je suis une sans-abri, dit-elle. » Elle n'est ni folle, ni sans-abri. Elle vit avec son mari, musicien et dramaturge, dans un appartement de Bushwick, à Brooklyn. C'est là que se trouve l'atelier où elle transforme des animaux mal aimés en œuvres d'art, pour reprendre ses mots. Mais son action ne se limite pas à cette activité artistique qui lui permet de gagner sa vie depuis 12 ans. Elle comprend aussi la lutte contre les braconniers qui piègent les pigeons de New York, surnommés « rats ailés » par leurs détracteurs, et les destine à une mort cruelle en Pennsylvanie. « Le tir aux pigeons vivants est toujours légal en Pennsylvanie », explique celle qui se fait également appeler « Madame Pigna » entre deux conversations ou transactions avec des curieux ou des clients. Tôt le matin, ces braconniers se rendent dans les parcs de New York où ils attrapent des pigeons avec de grands filets à papillons. Vendus à des intermédiaires, les oiseaux sont ensuite transportés en Pennsylvanie dans des cages. « Et puis, on les torture avant de leur tirer dessus, » dit Mère Pigeon. « On les torture? » »« Oui, on leur rogne les ailes pour limiter leur vol. Ils n'ont aucune chance de survivre au tir. » On les met dans des catapultes qui les propulsent dans les airs. Si leurs ailes étaient intactes, ils auraient une chance de s'en sortir. Car mes pigeons sont très forts et très courageux. Vos pigeons? Ce sont tous mes pigeons. J'en prends soin comme si c'était mes enfants, dit Madame Pigna en distribuant des graines aux oiseaux. Au printemps 2025, elle a organisé une campagne contre les propriétaires d'un magasin d'oiseaux de Brooklyn qu'elle soupçonnait d'acheter des pigeons issus du braconnage. La police de New York n'a jamais pu confirmer ses soupçons. Mais, à la même époque, des policiers ont surpris un homme de 67 ans en train de capturer des pigeons avec un filet à papillons dans Tompkins Square Park à Manhattan. Ils ont ensuite découvert plus de 25 pigeons en cage dans une camionnette garée à proximité. Passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, Dwayne Daly, domicilié à Bushkill, en Pennsylvanie, a évité de se retrouver lui-même en cage à la suite d'un accord avec le bureau du procureur de Manhattan qui a indigné Mère Pigeon et ses compagnons de lutte. « Nous vivons dans une société malade, » dit-elle aujourd'hui. Symbole de résilience. James Fee croit savoir pourquoi les pigeons sont maltraités ou mal aimés par certains New-Yorkais. Ils vivent dans la rue, ils fouillent dans les poubelles, ils sont comme les sans-abri, dit cet ancien professionnel du développement des affaires et de la levée de capitaux qui vit dans l'Upper East Side, le quartier le plus huppé de Manhattan. Tout en achetant 35 $ un des petits pigeons de Madame Pigna, qui vend les plus grands 65 $ le New-Yorkais ajoute « Ce sont pourtant des animaux incroyables. » Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les pigeons voyageurs ont joué un rôle essentiel pour la marine américaine le long de la côte Est. « Et ils sont très propres, » interjecte Mère Pigeon. Mère Pigeon dénonce la propagande massive dont ont fait l'objet les colombidés importés aux États-Unis de l'Europe au 18e siècle en tant qu'animaux domestiques. Mais le vent est peut-être en train de tourner. Depuis octobre 2024, une sculpture colossale représentant un pigeon se dresse sur la High Line, parc linéaire suspendu de Manhattan, à l'angle de la 30e rue et de la 10e avenue. Signée par l'artiste colombien Ivan Argote, cette sculpture hyper-réaliste en aluminium coulé s'intitule « Dinosaur », référence à l'échelle de la sculpture ainsi qu'aux ancêtres du pigeon, qui, il y a des millions d'années, dominait la planète. Quelques 18 mois après son installation, le Dinosaur d'Ivan Argote doit bientôt être remplacé par une autre œuvre d'art. Mais une pétition ayant recueilli plus de 7000 signatures sur le site change.org réclame que la ville lui fasse une place permanente sur la High Line. Le pigeon est un symbole de résilience et de persévérance et représente New York ainsi que tout ce qu'elle incarne, affirme Brett Tulip, l'initiateur de la pétition. Retirer la sculpture reviendrait à supprimer une œuvre d'art qui est déjà devenue profondément significative pour la communauté en très peu de temps. Intermède musical. À sa façon, Mère Pigeon est elle-même devenue un symbole de résilience et de persévérance. Née à San Antonio, au Texas, dans une famille d'immigrés mexicains, elle est arrivée à New York à la fin des années 1980 avec l'ambition de s'y faire un nom comme artiste. À cette époque, relate-t-elle, j'aspirais à ne pas mener une vie conventionnelle et à devenir à terme une artiste reconnue. Pour moi, faire de l'art, c'était une question de vie ou de mort. Mais devenir connue ou célèbre, ça ne m'importe plus vraiment. Elle a pourtant flirté avec une certaine gloire dans les années 2000 au sein des Trachtenberg Family Slideshow Players, un trio à mi-chemin entre le rock et le vaudeville, dont les chansons étaient inspirées par des diapositives ayant appartenu à des personnes décédées. Son mari Jason chantait en s'accompagnant au piano ou à la guitare. Sa fille Rachel jouait de la batterie et elle chantait en faisant tourner le carrousel d'un projecteur de diapositives. Le spectacle le plus couru à New York allait s'enthousiasmer le magazine Entertainment Weekly avant que le trio ne soit invité sur les plateaux de télévision, y compris celui de l'émission de Conan O'Brien. « Nous avons fait le tour du monde », rappelle Madame Pigna. « Nous étions traités comme des rois. C'était un moment incroyable. » Mais les Trachtenberg ont mis fin à cette expérience épuisante au bout de 6 ans. Et Mère Pigeon s'est mise à fabriquer des sculptures souples d'animaux mal aimés. « Tant que je peux faire de l'art, survivre et vivre à New York, j'ai gagné. Je gagne », dit-elle. Les pigeons de New York aussi. C'était « La mère de tous les pigeons de New York », un texte de Richard Etu, paru le 5 avril 2026 dans la presse.
Conquête spatiale, Artemis II, une lueur pour les chercheurs dans une période sombre pour les sciences. En sous-titre, depuis son retour au pouvoir, Trump a durement visé le secteur et a notamment réduit le financement et les effectifs. Un texte signé Maggie Donaldson de l'agence France-Presse à Houston, texte publié dans Le Devoir du 8 avril 2026. Avant que les 4 astronautes de la mission Artemis II ne passent derrière la Lune, apogée de leur expédition, les membres du personnel de la NASA se sont rassemblés lundi dans la célèbre salle de contrôle de Houston pour une photo de groupe, affichant de larges sourires malgré une année difficile pour les sciences aux États-Unis. Depuis son retour au pouvoir, le président américain Donald Trump a durement visé le secteur scientifique et a réduit les financements, suspendu des projets et largement coupé dans les effectifs. La mission de la NASA, qui a envoyé des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis un demi-siècle, plus loin dans l'espace que jamais auparavant, représente donc une bouffée d'air frais pour les scientifiques. Derrière les équipes réunies face à l'objectif à Houston, les compteurs tournaient à mesure que le vaisseau spatial Orion se rapprochait de la Lune, un succès couronnant de longues années d'efforts. « Cette mission est un grand moment positif », a déclaré à l'agence France-Presse Jacob Bleacher, chef de l'exploration scientifique à la NASA. Citation, « Les gens travaillent là-dessus depuis des mois, des années, parfois plus d'une décennie », a-t-il expliqué, fin de citation. La majorité des Américains, y compris parmi les chercheurs de la NASA, n'étaient pas encore nés lorsque les missions Apollo ont envoyé pour la première fois des humains sur la Lune à la fin des années 1960. La légende occupait une place importante dans les esprits, mais elle se conjuguait au passé, jusqu'à aujourd'hui. Citation, « C'est tout simplement surréaliste ». Fin de citation, s'est réjoui Jacob Bleacher, depuis le mythique Centre spatial Johnson de Houston. Citation, « C'est la première occasion pour ma génération. de se lancer et de vraiment accomplir ça. A-t-il ajouté, j'aime penser que c'est comme ouvrir la voie vers les futures explorations du système solaire par l'humanité. Fin de citation. Conditions très difficiles. Donald Trump a fait pression sur la NASA pour que des astronautes posent le pied sur la Lune avant la fin de son deuxième mandat en 2029. Mais la semaine dernière, la Maison-Blanche a proposé de baisser de 23 % le budget global de l'Agence spatiale et de réduire considérablement le financement de ses programmes scientifiques. Et comme de nombreuses agences gouvernementales américaines, la NASA a fait face à d'importantes réductions de ses effectifs, a expliqué Clayton Swope du Centre d'études stratégiques et internationales. Artemis II a donc été réalisé, citation, dans des conditions très difficiles, a-t-il décrit, fin de citation. Dans ce contexte, le lancement réussi du vaisseau et le déroulement de la mission constituent, citation, un vrai coup de pouce pour le moral. Fin de citation, estime Amanda Nam, chercheuse au siège de la NASA. Citation, « Nous travaillons tous à la NASA pour cela et je pense que ça nous aide à nous rappeler que notre principale mission est cette exploration difficile, passionnante. Découvrir de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses que nous n'avons jamais faites auparavant », a-t-elle déclaré à l'agence France-Presse. Fin de citation. Autre citation, « Je pense que ça va nous donner à tous un nouveau souffle », espère-t-elle. Régulièrement interrogé sur le poids de sa mission, l'équipage d'Artemis II préfère généralement rediriger l'attention sur un projet bien plus large. Les quatre astronautes évoquent régulièrement le travail de l'équipe qui nous porte, comme l'a formulé le commandant Reid Wiseman. Citation, on a vraiment la sensation d'être porté par l'équipe qui nous soutient et on ne fait que suivre le plan, en quelque sorte, a-t-il expliqué à mesure que le vaisseau s'éloignait de la planète bleue. Beaucoup de gens nous ont appris comment faire fonctionner ça, comment piloter ce vaisseau, et nous avons suivi une excellente formation et on avance simplement étape par étape, a-t-il décrit. Je trouve que c'est remarquable ce que cette équipe est capable de faire. Fin de citation. Et fin de ce texte de Maggie Donaldson de l'Agence France-Presse titré Artemis II, une lueur pour les chercheurs dans une période sombre pour les sciences. Texte publié dans Le Devoir du 8 avril 2026.